CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du doute. Ne laisse pas le doute ronger ta foi. C'est notre thème du jour et nous avons un invité avec nous. Il est pasteur et il s'appelle François Nadeau. Bonjour François.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien.
C'est un honneur pour moi d'être ici.
Mais c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Nadine.
Allez Yveline.
J'allais presque t'oublier, tu vois.
Je suis là.
Tu es là. François, tu es pasteur, comme je l'ai dit. Tu es pasteur de l'église Disciples de Jésus. À cette île, alors pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du Canada, où se trouve cette île à peu près?
Sur la région de la Côte-Nord, et plus précisément à 10 heures de route de chez vous.
Donc François a fait beaucoup de route pour venir jusqu'à nous. On dirait pas, mais le Canada est un très grand pays, et finalement, oui. 10 heures de route, c'est très proche de là où on est en réalité, oui. comparé à la taille du Canada. Mm-hmm. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es marié, père de 2 enfants et demi, puisque un troisième arrive bientôt. Félicitations. Bah, de 3, en fait. Mm-hmm. Hein. C'est pas un
peut-être
demi.
4.
Peut-être 4, voilà. On te le souhaite.
C'est bon.
Et aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la pensée du jour, mais tu vas répondre aussi à une question de Jérémy de France dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, qui nous a demandé comment exercer ma foi pour mes finances dans ce temps de crise. Donc François y répondra tout à l'heure. Et Nadine, de quoi tu vas nous parler dans la rubrique Culture et Médias aujourd'hui?
Dans Culture et Médias, je vais présenter 2 plateformes fort intéressantes, Tout pour l'Église et Consommer Chrétien. C'est 2 plateformes qui offrent des services aux chrétiens, j'en parlais tout à l'heure.
C'est génial, c'est parfait. Tu as toujours des belles trouvailles, Nadine. C'est comme un chapeau dans lequel tu pioches sans fin.
Amen, je reçois cette parole.
On peut encourager Nadine quand même, parce que de jeudi en jeudi, elle trouve toujours quelque chose à nous partager dans cette rubrique, et c'est pas simple. Donc bravo Nadine, surtout dans ces temps de pandémie, il n'y a pas vraiment d'événements, de conférences, de concerts chrétiens, mais tu trouves toujours quelque chose. Félicitations.
Amen.
Donc François, on va commencer tout de suite cette émission dans la pensée du jour.
Merci beaucoup Evelyne. Donc, la pensée du jour s'intitule « Persévère jusqu'à l'obtention de ce que tu as demandé. Mm-hmm. » Et j'aimerais dire à des frères et des sœurs aujourd'hui de ne pas baisser les bras, mais de persévérer, car la persévérance rapporte beaucoup. Et je reçois dans l'esprit aujourd'hui qu'il y a des frères et des sœurs qui vivent des situations extrêmement difficiles, à un tel point que vous avez perdu espoir en Dieu. Mais je voudrais vous encourager aujourd'hui à vraiment mener le combat de la foi. Mm-hmm. Dans 1 Jean 5,4, ça dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, par la foi, nous sommes toujours victorieux. Amen. Alors, même si aujourd'hui, vous passez à travers de la détresse, de l'angoisse, de la maladie, de la souffrance, même des persécutions, je vous invite à persévérer et à ne pas abandonner le combat de la foi. Parfois, j'ai remarqué que dans la vie chrétienne, on va demander des choses à Dieu et on va beaucoup douter, n'est-ce pas? Et je l'ai vu dans ma vie, puis je l'ai vu dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et c'est malheureux parce que lorsqu'on doute, on ne peut pas recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Dans Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7, ça dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Bien évidemment, Jacques parlait de la sagesse, mais c'est valable pour toutes les promesses de Dieu. Amen. Donc, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc, lorsqu'on prend le temps de lire le contexte, on peut se rendre compte de 3 choses. Amen. Premièrement, le doute est le contraire de la foi. Deuxièmement, le doute nous fait perdre du temps. Et troisièmement, le doute nous empêche de recevoir de Dieu. Et je sais que lorsqu'on vit des situations extrêmement difficiles, parfois on va être beaucoup ballotté par les émotions et on va parfois douter même de la volonté de Dieu. Mais j'aimerais encourager des frères et des sœurs aujourd'hui. La volonté de Dieu pour toi ne change pas, peu importe les circonstances, peu importe les montagnes. Amen. Sa parole demeure la même. Et le cœur de Dieu pour toi, c'est d'agir maintenant dans ta vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, ça dit, « Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Ici, on va un peu plus loin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, ça dit, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas encore, pas la moitié, mais toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » Donc, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est de t'accorder toutes ses promesses, mais d'agir maintenant. Pas demain, pas dans 1 an, mais maintenant. Alors, frères et sœurs, ne laissez plus le doute vous faire perdre du temps. Ne laissez plus le doute ronger votre foi, mais brisez, mais je le répète, brisez le doute par la déclaration de la parole de Dieu. Amen. Que ça soit en parole, que ça soit en action, en adoration, brisez le doute par la déclaration de la parole de Dieu. Et en terminant, dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, lorsqu'on déclare la parole de Dieu, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà.
Amen. Merci beaucoup, François. Merci pour cette pensée. Ah, le doute, hein, on a tous plus ou moins des soucis, des combats avec le doute. Mm-hmm. Il y a des domaines dans lesquels c'est très facile de croire. Et tous, quand je dis ça, on pense à des choses. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels c'est un défi. Mm-hmm. Et parce que, pourquoi ? On a peut-être eu quelques échecs dans ce domaine-là, dans notre vie. On avait peut-être prié et ça, on n'a pas été exaucé. Et ça, c'est comme un mini traumatisme, en fait, dans notre esprit où on se souvient toujours de cet échec. Et le diable s'en sert pour venir toujours, dès qu'on a un combat similaire, nous rappeler, bah, tu te souviens la dernière fois, tu n'as pas été exaucé. Discrètement, c'est très sournois, mais ça vient installer le doute. Et tu parles des émotions, tu parles de la peur dans ta pensée. Effectivement, c'est lié à ça, le doute. C'est, et si j'étais pas exaucé. Et si ça marchait pas? Et si j'avais pas assez la foi? Et finalement, la peur de ne pas avoir assez la foi va amener le doute qui va anéantir la foi. Donc c'est comme un cercle vicieux finalement dans lequel on se trouve qui est compliqué. Et je vais revenir sur le verset que tu nous as partagé, François. C'est notre verset du jour et c'est le verset par excellence du doute. Hein. Jacques 1 au verset 6 et 7, vous le connaissez très bien. Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Moi, je me souviens quand j'étais nouvellement convertie, j'ai lu ce verset la première fois, j'ai trouvé ça un peu dur. J'ai dit, ouais, mais des fois, c'est difficile de croire. Mais en fait, c'est un principe divin. Dieu ne demande qu'une seule chose pour pouvoir intervenir, c'est notre foi. Il y a comme une loi spirituelle qui est là. Et notre foi est comme une échelle, en fait, entre le ciel et la terre qui va permettre l'intervention de Dieu, finalement.
Exactement. Et moi, j'aimerais apporter aussi que le doute se forme beaucoup, oui, à travers les émotions, mais ça passe dans la tête. Mm-hmm. C'est au niveau des pensées. Mm-hmm. Et par exemple, lorsque j'ai vécu des situations difficiles dans ma vie, qu'on va parler plus tard pour les finances, le doute, lorsque tu vis une situation de crise, est constamment présent.
Ouais.
Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu va vraiment répondre à mon besoin? Pourquoi? Parce que la situation, la circonstance va parler plus fort que la parole de Dieu. Mm-hmm. C'est ça qui est malheureux.
Ouais.
Donc, on doit vraiment renouveler nos pensées par la parole de Dieu et tenir ferme et persévérer pour recevoir.
Amen. Ce
Moi, il y a une parole, le psaume 119 au verset 130, qui dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple.
Wow.
Et cette parole-là, je me rappelle quand un jour je l'ai lue comme ça. Et en fait, je me suis dit, Seigneur, tout part de la révélation de ta parole.
Amen.
Et donc, quand je suis devant un défi, quand je suis devant une situation que je ne sais pas par où, je prie ce verset, Seigneur, révèle-moi. Et dans la parole de Dieu, à un moment donné, je vais lire quelque chose. Je vais comprendre spirituellement, je vais le recevoir comme tu dis. Je vais être en mesure d'établir cette échelle entre le ciel et moi par ma foi. Et c'est cette révélation de la parole qui va me fortifier. Parce que là, cette promesse, elle va être pour aujourd'hui. Je vais me dire, non, c'est pas juste pour les apôtres. Ce verset n'est pas juste pour Abraham. Il est aussi pour moi aujourd'hui. Et du coup, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence. Et donc, ça me permet à moi, quand je lis la parole de Dieu, de voir ses promesses, d'être rassuré, d'être fortifié et de tenir ferme, comme tu dis, de chasser le doute, en fait.
Parce que trop souvent, lorsque l'épreuve dure longtemps et qu'on ne reçoit pas de Dieu, on peut abandonner. On dit, ben Dieu, ce n'est pas sa volonté ou Dieu est occupé à autre chose. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu dit quoi? C'est qu'on a la victoire par la foi.
Et c'est ça.
C'est aussi simple que ça.
C'est ça. Et moi, je pense souvent à la femme, vous savez, qui est venue à la table et qui a supplié Jésus d'intervenir, mais elle n'était pas juive.
Oui.
Et en réalité, à ce moment-là, son temps n'était pas venu. Jésus était venu pour les juifs à ce moment-là. Et j'aime son attitude. Tu me parlais de persévérance. Elle a vraiment persévéré. Jésus lui dit, non, c'est pas pour toi. Et elle va réfléchir et elle va dire, même les chiens viennent manger les petites miettes qui tombent de la table. Elle était déterminée coûte que coûte à repartir avec quelque chose. Et sa foi a fait même changer d'avis Jésus, qui lui a dit non d'abord, mais qui a dit, devant une telle foi, je ne peux pas résister mm-hmm. parce que Jésus est bon, il a le cœur de Dieu, mm-hmm. il est bon. Mm-hmm. Il n'a pas pu résister parce que sa foi l'a obligé, lui a presque forcé la main d'intervenir dans sa situation. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais réellement Jésus à ce moment-là, ce n'était pas sa mission de prendre soin de cette femme et d'intervenir mm-hmm. pour sa fille. Ce n'était pas le plan, mm-hmm. mais il a changé d'avis à cause de la foi. Et on voit que si cette femme avait eu le moindre doute, elle aurait essayé, elle serait repartie devant le non. Mm-hmm. Mais là, elle a persévéré jusqu'au bout. Et c'est très très fort comme image en fait qu'elle nous donne de persévérer.
Par exemple, je peux, si vous me le permettez, mm-hmm. Moi, je suis une personne qui prie beaucoup pour les malades. Donc, mm-hmm. j'ai rencontré des gens qui avaient des cancers, par exemple, un lymphome. Mm-hmm. Et du premier coup, lorsque je priais pour la personne, il ne se passait rien. C'est ça, la vérité. Mm-hmm. Mais je me tenais sur la parole de Dieu qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, je disais à la personne, je dis non, on va persévérer. Et lorsque tu vas aller voir le médecin la prochaine fois, lorsqu'ils vont passer des tests, tu vas voir ton cancer va avoir diminué. Mm-hmm. La personne m'a dit, oui, viens prier pour moi tous les jours. Ouais. Donc, à tous les jours, je prenais 2 minutes, je priais pour la personne. Et savez-vous quoi? La personne est allée passer ses tests et son lymphome avait diminué de 90%.
Amen.
Mais j'ai prié pendant 1 mois pour la personne. Mm. Mais j'étais tenace, j'ai persévéré. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment, je crois que la foi, oui, c'est bien quand c'est instantané, immédiatement. Je pense que tout le monde veut ce genre de choses. Mais il y a des moments où on doit vraiment combattre pour recevoir de Dieu. Pas parce que Dieu veut pas, mais parce que c'est nos doutes, c'est dans notre raisonnement humain qui nous apporte beaucoup de problèmes, puis on perd du temps.
Mm-hmm. On perd du temps. Mais tu sais, ça me fait trop penser quand tu dis qu'il faut persévérer, il faut combattre. Il y a une citation de Matthew Henry, je crois, qui dit que les promesses de Dieu doivent être l'objet de nos prières. Mm. Et cette citation m'a beaucoup frappée quand j'ai dit ça, parce que j'ai dit, c'est vrai que quand on est devant une situation, une montagne comme ça, où est-ce qu'on a un test, où est-ce qu'on a un diagnostic, où est-ce qu'on a une date de rendez-vous dans 1 mois, ben, l'objet de nos prières, ça va être plus les murmures, ça va être plus les plaintes, ça va être peut-être la revendication, ça va être peut-être les pourquoi moi, Seigneur, la colère, la frustration. Mais si les promesses de Dieu étaient l'objet de nos prières, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'épancher devant Dieu. On voit dans les psaumes, David, il disait là quand ça allait mal, il nommait les noms de ceux qui le persécutaient.
Il se ressaisissait toujours.
Il se ressaisissait à la fin.
Oui,
c'est ça. Il louait Dieu. Exactement. Donc du coup, nous aussi, oui, on peut arriver dans la prière, puis Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, voici. Mais les promesses de Dieu devaient être l'objet de ma prière. Donc ça veut dire que je ne peux pas sortir de la présence de Dieu sans avoir dit, mais dans ta parole, il est écrit ceci. Seigneur, je m'accroche sur telle promesse que tu m'as donné, etc., etc. Et c'est quand on va dire ces choses-là, parce que le doute, c'est dans nos pensées, comme tu dis, mais quand on va le dire, moi, j'ai remarqué que quand tu parles, tes oreilles naturelles, elles entendent ce que tu déclares.
La foi vient de ce qu'on entend.
Et ça fait ça a vraiment un impact dans l'atmosphère de ta maison. Mais même toi-même, quand tu sors de là, t'as entendu ce que t'as dit dans l'esprit, t'as entendu ce que t'as dit quand t'étais plein de foi dans la prière, et ça te porte aussi par rapport à ces doutes-là.
Exactement. Et il y a une histoire dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, qui nous parle justement du doute avec Pierre.
Oui. Eh bien, effectivement, on sait que lorsque Pierre a vu Jésus sur l'eau, hein, Pierre a voulu suivre le Seigneur, Jésus a dit « viens », donc il lui a donné une parole. Mm-hmm. Et Pierre a porté sa foi sur cette parole, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça dit dans les versets un peu plus loin, dans Matthieu 14, chapitre 25 à 33, ça dit « mais », ça c'est Pierre, « voyant que le vent était fort, il eut peur ». La peur, c'est quoi? L'émotion. Mm-hmm. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « homme de peu de foi », qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi as-tu douté? Donc, le doute est venu par rapport à quoi? Les émotions, la peur. Et c'est vraiment très simple dans la parole de Dieu. Quand la parole en parle au niveau du doute, on se rend compte vraiment que dans la parole de Dieu, autrement dit, le doute peut être réglé vraiment simplement si on se tient sur la parole de Dieu, lorsqu'on la déclare, et au lieu de déclarer nos peurs, et même déclarer autrement dit, pas déclarer, comment je pourrais dire ça, mais au lieu
s'appuyer
oui, effectivement, sur nos circonstances et nos émotions, bref. Mais vraiment, je crois vraiment que le doute peut être vraiment brisé par la déclaration de la parole de Dieu. Et je l'ai vu dans ma vie, et ça a apporté beaucoup de résultats.
Ben, on le voit, hein, Pierre, il s'appuie sur le vient de Jésus, et parce que Pierre, en fait, on sait comment il est, Pierre, hein, on voit sa personnalité. Il est zélé, il est un peu impulsif. Ouais. Et sur le coup, ben, il croit. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Mm-hmm. Ben, Jésus lui dit, viens. Ben, ça génère la foi en lui. Si Jésus m'appelle, je peux marcher. Mais tout à coup, effectivement, il fixe plus ses yeux sur cette parole que Jésus lui a dite et sur ce qu'il avait demandé même avant. Finalement, c'était comme une prière qu'il avait fait à Jésus. Ordonne, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mm-hmm. Et ben, Jésus lui a répondu. Il a été exaucé, mais dans le chemin, justement, justement, parce que parfois, l'exaucement est comme étape par étape. Mm-hmm. Tu vois, tu parlais de cette personne pour qui tu as prié pendant un mois. Et dans ce chemin de l'exaucement, où Dieu est comme dit, bah, viens, il faut juste que tu fasses quelques pas. Et bien là, tout à coup, il y a un moment où on va bien partir et puis on va regarder à droite, on va regarder à gauche, on va regarder à nos circonstances. Peut-être quelqu'un va venir sur notre route, nous donner une parole. Peut-être on va avoir un rendez-vous médical. Peut-être on va voir notre compte bancaire qui crie rouge, rouge, rouge. On en parlera tout à l'heure. Et en fait, il y a des choses qui vont arriver, qui vont faire comme le vent et les grosses vagues qui ont effrayé Pierre, qui vont amener le doute. Et c'est là où je pense que dans ce chemin, peut-être certains avaient bien commencé et finalement ont été découragés par les circonstances. Ben, je vous encourage à revenir à cette première parole qui vous avait donné la foi suffisante pour dire « je crois que Dieu va intervenir ». On le sait, il y a des guérisons qui sont instantanées, il y a des guérisons qui sont progressives. Et c'est le cas avec toutes sortes de miracles. Des fois, ça se fait par étapes. Parfois, vous avez prié, Dieu a commencé à intervenir, à placer les circonstances autour de vous pour que votre situation change, mais vous ne le savez pas encore à ce moment-là. Mais Dieu est en train d'organiser. C'est dans ces moments-là où il faut justement persévérer dans la foi. Tout comme Daniel, on le sait, quand il a fait son jeûne, l'ange lui a dit après, dès le premier jour, j'ai commencé à intervenir, mais il y a eu un combat. Oui. Et c'est là la nécessité de persévérer et cette persévérance dont tu parlais qui est essentielle dans le domaine de la foi. Et c'est également le cas dans le domaine des finances. Et puis, je pense que c'est vraiment un bon temps pour parler de ça. Parce qu'on le sait, certains d'entre vous, vous êtes malheureusement victimes de cette crise économique due à la pandémie. Et pour vous, c'est peut-être difficile. En tout cas, c'est le cas de Jérémy. Et Jérémy de France nous a posé cette question. Comment exercer ma foi pour mes finances dans ces temps de crise économique? Et tu me disais tout à l'heure, hein, donc tu as une petite expérience personnelle à ce sujet.
Oui, effectivement. Donc, l'année passée, moi et ma famille, on a vécu vraiment une situation extrêmement difficile au niveau des finances, à un tel point qu'on n'avait plus de revenus. On a épuisé nos coussins.
Avec des enfants, en plus.
Mm-hmm. Avec une maison, un auto à payer, bien sûr. Mm-hmm. Donc, ça crée beaucoup de toutes sortes d'émotions et de colère et d'incompréhension. Mais étant donné que je suis le Seigneur quand même depuis plusieurs années, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Amen. J'ai dit, non, Seigneur, alléluia. J'ai dit, Seigneur, cette circonstance-là, ça va être un autre moyen pour te glorifier.
Amen.
Alléluia. Et Dieu a pourvu de façon surnaturelle et nous avons manqué de rien.
Amen.
C'était incroyable. Par exemple... Des gens m'écrivaient, mon frère, j'ai eu à cœur de donner tel montant d'argent. Mon frère, j'ai eu à cœur de donner telle carte pour payer l'épicerie.
Wow.
Et c'était à chaque semaine pendant une période de 2 mois.
Mmh.
Wow.
Tu as été fidèle.
Oui.
Et comment tu l'as bâti, justement, cette foi? Comment tu l'as exercée?
Amen. Ben, en fait, c'est ça. J'aimerais vraiment apporter le côté pratique de comment exercer notre foi pour recevoir de Dieu lorsqu'on vit une situation difficile. Je vais l'apporter en 3 étapes, si vous me le permettez. Première étape, lorsque j'ai vécu cette situation-là, j'ai été chercher ma paix auprès du Seigneur et j'ai lui fait connaître tous mes besoins.
Mm-hmm.
Pourquoi? Pour ne pas céder à la panique.
Mm-hmm.
La peur est mauvaise conseillère, on le sait. Et parfois, lorsqu'on nous sommes dans la peur, on va être poussé à réagir trop rapidement et prendre de mauvaises décisions. Donc, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien ». Amen. Parfois, c'est dur, mais la parole de Dieu dit « Ne vous inquiétez
et
de rien ».
C'est ton ordre.
Mais ça dit quoi? « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières, par des supplications et des actions de grâce. » Et là, c'est le verset que j'aime de tout mon cœur. « Et la paix de Dieu qui surpasse quoi? Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. »
Amen.
Amen. Donc, la prière m'a aidé à revenir dans la paix.
Mm-hmm.
Ça, c'est la première étape.
Mm-hmm.
Deuxième étape, j'ai renouvelé mes pensées par la parole de Dieu. C'est très important, hein, parce que notre vie chrétienne doit être basée sur la parole et non sur nos émotions et les circonstances.
Mm-hmm.
Pourquoi, encore une fois? Pour connaître la volonté de Dieu.
Mm-hmm.
Par exemple, comme je disais tantôt, j'étais ballotté par les émotions, les incompréhensions. Oui, la paix de Dieu est revenue, mais mon problème est encore là.
Oui.
c'est quand même un
bon début, mais c'est pas fini.
Exactement. Mm-hmm. Donc, je suis allé renouveler mes pensées par la parole de Dieu pour vraiment comprendre, de ne pas m'inquiéter, puis que Dieu allait pourvoir à mes besoins. Amen. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 10, verset 17, ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Mm-hmm. »
Donc, la parole de Dieu a animé ma foi, à me redonner de l'assurance et de l'espérance que Dieu allait intervenir dans ma vie.
Mm-hmm.
Ça, c'est la deuxième étape, mais on n'arrête pas là. La troisième étape, toute simple, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu jusqu'à l'obtention de la réponse à mes besoins.
Ah.
C'est ça le truc.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pas déclaré mes peurs, pas déclaré mes doutes, mais j'ai déclaré la parole de Dieu. Donc, à tous les jours, Même si une peur venait dans ma tête, je disais, non, Seigneur, tu vas pourvoir à mes besoins, selon ta richesse. Mm-hmm. Tu vois, je n'ai pas à m'inquiéter, Seigneur, tu pourvois à mes besoins. Donc, j'ai fait cela pendant environ une semaine, même si tout me montait le contraire, même si le compte de banque était rouge, même si ma femme était plus dans l'inquiétude que moi. Mm-hmm. Mais à un moment précis, quelqu'un m'a écrit, m'a dit, mon frère, Dieu m'a parlé, parce que je n'en ai pas parlé à notre assemblée. Personne n'est au courant.
J'ai gardé ça
pour moi avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas prendre soin.
Amen.
Et Dieu a pourvu. Et même ma femme en était témoin, puis elle était émerveillée par la grandeur de Dieu. Et j'aimerais dire à des frères et des sœurs aujourd'hui un petit encouragement vis-à-vis de cette pensée. Vous n'êtes pas orphelins. Vous êtes des enfants de Dieu, puis Dieu prend soin de vous. Amen. Dans Ésaïe 43, chapitre 2, version Parole de vie, ça dit, « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. » Donc, Dieu est à nos côtés. Peu importe la grandeur de nos problèmes, Dieu est à nos côtés. Et j'aimerais donner un petit conseil en terminant, si vous me le permettez.
Bien sûr.
Frères et sœurs, bâtissez votre bateau de foi avant la tempête.
Ça, c'est un bon conseil.
Oui, trop souvent, on attend d'exercer notre foi lorsque tout va mal. Que ce soit pour la santé, n'est-ce pas? Que ce soit pour les finances. Mais lorsque tout va mal, on est dans les émotions, dans le doute, et c'est dur de recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Exact. Donc, vraiment, prenez le temps d'exercer votre foi avant la tempête. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un mal de tête, exercez votre foi pour recevoir votre guérison. Vous évangélisez, mais exercez votre foi pour recevoir de Dieu pour acheter des Bibles, mais exercez votre foi avant la tempête. Et je pourrais donner que l'exemple, autrement dit, que la foi fonctionne un peu comme une personne qui va s'entraîner au gym. Elle va commencer au début à s'entraîner avec des petits pas pour se muscler, mais au fur et à mesure qu'elle va grandir dans son entraînement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer de poids, parce que les petits pas ne suffisent plus. Elle va prendre de plus en plus lourd. La foi, c'est la même chose. On doit l'exercer, et plus qu'on l'exerce, qu'est-ce qui se passe? On peut recevoir de plus en plus gros, Seigneur. Comme moi, j'ai commencé avec un petit 50 $ comme je vous avais partagé, et j'ai exercé ma foi, et un jour, j'ai reçu 1 000, 2 000, 3 000, et ainsi de suite. Donc, la foi, on doit l'exercer.
Amen, amen. Merci beaucoup, François. Très, très bonne réponse, Jérémy. Je pense que tu sais quoi faire. Et les versets qui ont été donnés sont des très, très bonnes références, particulièrement dans ces temps difficiles. Et je vous encourage même peut-être à les écrire sur des post-it, à les coller, peut-être dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher, peu importe. Là où vous avez tendance à méditer sur l'inquiétude, eh ben, vous lisez ce verset et vous parlez à votre âme. Ça va beaucoup vous aider. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. Nadine, on enchaîne avec toi dans la rubrique Culture et Médias.
Alors, comme je vous disais en début d'émission, je partageais sur deux plateformes fort intéressantes. La première s'appelle Consommer Chrétien. Tu disais, Yveline, en début d'émission, que c'est vrai que c'est difficile en ce moment. En 2020, en tout cas, la plupart des églises n'ont pas fait de grandes conférences, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Et justement, il y a un annuaire qui est sorti, Consommer Chrétien. Ça répertorie tous les produits et services des particuliers, des entrepreneurs et des professionnels chrétiens. Donc, on peut dire, on peut aussi soutenir l'Évangile, le royaume de Dieu, en soutenant, en faisant affaire avec des ministères chrétiens. Donc, ils vont avoir une panoplie de services, sur leur site. Restaurant, transport, mécanique, prêt-à-porter, coaching, conseiller en images, toutes sortes de choses. Ils proposent des entreprises fiables. Ils disent vraiment qu'ils ont vérifié que ces personnes-là sont un engagement de foi vraiment vérifié.
C'est français uniquement, en France uniquement ou pas forcément?
En fait, j'ai vu beaucoup de choses. En fait, il faudrait y aller voir. C'est sûr que c'est en Europe. Là, je ne sais pas s'ils ont des entreprises ici. Mais en fait, tu peux t'inscrire. Donc, j'imagine qu'une entreprise ici, si elle s'inscrit, on peut la retrouver en fait. Parce que les entreprises aussi chrétiennes sont invitées à s'inscrire sur cette plateforme-là. Pour qu'on puisse les retracer. Et donc, c'est une plateforme, un moyen que eux, Consommer Chrétien, disent proposer pour soutenir le royaume, parce qu'en ce moment-là, on a recours à des entreprises qui ont des valeurs chrétiennes et ça reste entre nous, entre chrétiens. Ça promeut les intérêts du royaume. Et donc, il y a une petite vidéo de présentation qu'on peut regarder tout de suite.
Consommer Chrétien est une plateforme qui veut privilégier les produits et services proposés par des chrétiens en valorisant leur créativité afin de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très simple. Nous avons constaté que les entrepreneurs chrétiens sont peu visibles et manquent de notoriété. Nous souhaitons leur offrir une solution qui augmentera leur rayonnement au sein de la communauté chrétienne. Prenons l'exemple de Sarah. Elle est née de nouveau et aimerait favoriser sa consommation auprès d'entreprises chrétiennes. Que ce soit pour faire du shopping avec une amie pour manger dans un restaurant et pour tous les besoins du quotidien. Voici Mathieu. Lui aussi chrétien, il est cuisinier et vient tout juste d'ouvrir son restaurant. Mais son manque de visibilité ne lui permet pas d'être l'une des adresses potentielles de Sarah lorsqu'elle veut passer une soirée au restaurant entre amis. Heureusement, Consommer Chrétien devient cette passerelle. À partir du site, elle pourra localiser facilement le restaurant de Mathieu et ainsi choisir une consommation chrétienne. Tout cela dans une atmosphère en harmonie avec ses valeurs spirituelles. En choisissant ce restaurant, Sarah participe directement à l'augmentation du chiffre d'affaires, mais surtout à l'investissement financier des entrepreneurs pour le royaume de Dieu. En effet, nous croyons que les entrepreneurs ont une responsabilité, celle de soutenir financièrement l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi que des actions sociales, des campagnes d'évangélisation et autres événements pourront être financés par ces consommateurs qui privilégient les entreprises du royaume de Dieu. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez souscrire à un abonnement payant sur notre site. Et à nous tous consommateurs, boostons l'économie du corps de Christ avec Consommer Chrétien.
Et voilà.
Super.
C'est merveilleux.
Ben oui, c'est une très belle idée.
Consommerchrétien.com pourrait avoir toutes les informations. Et la deuxième plateforme que je vais présenter s'appelle Tout pour l'Église. Alors, Tout pour l'Église, c'est un organisme chrétien qui a pour vocation d'aider les églises dans chaque domaine de la vie courante. Donc, ils veulent alléger l'Église. Ils disent que servir dans l'Église peut s'avérer complexe. Les pasteurs irresponsables doivent veiller à la santé spirituelle des personnes, mais il y a autre chose aussi à régler. Donc, du coup, ils se proposent comme une solution. Leur mission, c'est vraiment de soutenir et accompagner l'Église. Donc, ils mettent à la disposition de l'Église leur expertise. Ils offrent du matériel. Donc, sur leur site, vous pouvez trouver des ustensiles de culte, faire la Sainte-Cène, du mobilier, donc les chaises, lutrin, tout ça, matériel vidéo, éclairage, décoration, instruments de musique. Ils livrent même en Afrique. Mm-hmm. C'est une entreprise qui est en Europe, mais elle livre aussi en Afrique.
D'accord.
Et vraiment, leur cœur, c'est d'apporter leur expertise. Ils ont un blog aussi avec plusieurs articles pour outiller aussi les églises en disant, bon, surtout maintenant, tu sais, on parle encore, maintenant beaucoup d'églises sont passées au mode virtuel, ben, comment est-ce que je dois m'équiper, pourquoi est-ce qu'une église doit s'équiper en vidéo, en donnant des conseils, etc. Donc sur leur site, il y a aussi l'aspect blog, où est-ce qu'on peut aller lire et en apprendre davantage sur cela. Donc ils offrent une variété d'informations, une variété de produits. Donc vous allez sur leur site toutpourleglise.com et vous pourrez trouver de quoi pour votre église.
C'est super, c'est très très bien. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir où trouver le matériel, etc. Et puis bah, avoir des personnes chrétiennes qualifiées. Qui vont pouvoir qualifier, mmh. qui vont pouvoir nous conseiller, c'est mmh. top. Bah, félicitations pour ces deux belles initiatives. Merci Nadine de nous les avoir présentées. Et François, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir.
Nous, on va se retrouver demain. Tu vas nous partager ton témoignage de conversion dans la rubrique C'est mon histoire. Et demain, en fait, nous allons parler de comment convaincre une personne de croire en Jésus. Ça semble être un thème à controverse, mais vous verrez, on a des choses intéressantes à dire à ce sujet-là. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.